La France de 2008 est un pays en puissance. Un État cosmopolite, en pleine croissance économique. Un pays séduisant. Mais derrière sa carte de visite, de trottoirs huppés, d'édifices reluisants et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité », se cache une autre réalité. Une de celles que l'on camoufle délibérément. Celle des sans-papiers. Celle de ces centaines de milliers de personnes vivant à l'intérieur de ces frontières, mais à qui on refuse le droit de rester. Ce documentaire est l'histoire de leurs histoires.
On n'a pas l'air, hein, et on est dans un état de droit, une démocratie, mais c'est terrible ce que vivent les gens.
On ne peut pas construire un monde sur une base d'exclusion, sur une base de frontières fermées, sur une base de deux mondes. Pour moi, les êtres humains, ils vivent tous dans le même monde, et par conséquent, ils doivent pouvoir circuler et s'établir là où ils le désirent.
Chaque pas qu'il fait, il faut qu'il le contrôle, parce que ça peut être un risque de sortir de chez lui pour y aller faire des courses ou y aller à l'école.
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Les papiers !
Et pour qui ?
Et pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Les papiers !
On estime le nombre de sans-papiers vivant en France entre 200 et 400 000. Leur histoire devient une histoire de chiffres. Travail au salaire minimum ou en dessous, limite du nombre d'années admissibles à la carte de séjour, et un autre chiffre inquiétant, 25 000. Le nombre de déportations annuelles établies par le président Nicolas Sarkozy au mois de décembre 2006, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Un chiffre dont l'impact glace le sang. Nicolas Sarkozy a été élu au mois de mai 2007 sur un programme visant à resserrer la politique d'immigration française. Deux ans avant son élection, la rage brûlait littéralement dans les banlieues parisiennes. Les émeutes de jeunes, principalement issus de l'immigration, ont incendié les quartiers pour exprimer leur colère contre le racisme, la brutalité policière et la pauvreté. En France, le taux de chômage au sein des communautés immigrantes est trois fois plus élevé que celui de la moyenne nationale. Sarkozy a décrit l'immigration en France en deux tendances, l'immigration choisie et l'immigration subie. Il veut éloigner le pays de la seconde pour mettre en place un système qui lui permettra de sélectionner ceux qu'elle souhaite. Mais pour les personnes qui n'ont pas choisi de migrer vers le Nord, aucune de ces deux définitions de l'immigration n'est acceptable. Pour eux, la France est un pays qui ne les choisira jamais. Aujourd'hui, les gens confondent la rhétorique et les politiques de Sarkozy. En France, les lieux de répression où règne la peur se transforment graduellement en lieux de résistance. Ce documentaire nous amènera dans certains de ces lieux. Des stations du métro de Paris au centre de détention des immigrants, en passant par les lieux de travail. Nous entendrons la voix de ceux qui sont aux premières lignes d'une lutte qui questionne la France en tant que pays d'accueil. Le premier de ces lieux que nous visiterons est un immeuble d'appartement dans la banlieue parisienne de Bondy. Adama vient du Mali et a immigré en France. Avec des amis et membres de sa famille, aussi immigrés du Mali, il a emménagé dans une ancienne clinique transformée en immeuble à appartements à Bangui. Mais les résidents, pour la plupart des sans-papiers, se retrouvent dans une situation précaire puisque le propriétaire veut fermer l'immeuble prochainement. Dans le sous-sol de leur immeuble, les résidents se rassemblent pour se supporter mutuellement. Et Adama explique la situation.
Bon, l'essentiel, la majorité des gens sont venus ici à partir de 2001. Et ce sont des Africains essentiellement qui sont venus parce qu'il y avait problème de logement, on n'en trouve pas ici. Et donc, dans un premier temps, c'était des étudiants qui étaient venus et qui avaient accès à ces logements. Et d'abord, c'est une ancienne clinique qui a été désaffectée et transformée en logement social. Et donc, du coup, les gens sont venus petit à petit par la solidarité africaine. Quand tu viens et que tu sais que ton ami ou ton cousin, il dort dehors, On essaie de ne pas les laisser dans la rue, on les fait venir. Et comme ça, tout le monde est venu. À partir de 2001 jusqu'à nos jours, il y a eu 150 personnes au total ici, des hommes, des femmes et des enfants. Et nous, on avait entendu que le propriétaire avait des problèmes avec la justice et qu'ils avaient demandé à ce que le bâtiment soit fermé. Et du coup, on s'est dit, mais si le bâtiment se ferme, qu'est-ce que nous on fait ? D'accord, on n'est pas en situation régulière, mais bon, s'il n'y a pas où dormir, on fait comment ? Donc, ou si le bâtiment ne se ferme pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre condition de vie ? Du coup, on a créé une association qui s'appelle Association des résidents de la clinique Michelet, qui est ARMB. On est reconnu au niveau de la loi française, on est dans le journal officiel. Et on a commencé à travailler ensemble, tous les ressortissants du bâtiment.
Je m'appelle Clotilde Maillard et je suis au comité de soutien de la clinique Michelet à Bondy. Le problème, c'est que s'ils ferment la clinique, tous les gens vont se retrouver à la rue. Ceux qui ont des papiers pourront prétendre à un relogement par le maire ou par la préfecture. Bon, il y a une législation garantissant le fait que quand on ferme un lieu d'habitation, on puisse reloger les gens. Mais ceux qui n'ont pas de papiers n'ont aucun droit. Aucun. Donc ils vont se retrouver à la rue.
Donc moi, c'est Sila Zoumana et je suis le secrétaire administratif de l'association que les résidents ont créée ici. Et je suis du Mali. Actuellement, il y a certains d'entre nous qui sont irréguliers. Donc au total, nous sommes 44 qui n'ont pas de papier exactement aujourd'hui. C'est très très difficile d'avoir un logement si tu n'as pas de papier. Donc il faut avoir obligatoirement le papier pour pouvoir être relogé. Sinon, où tu vas te retrouver avec quelqu'un, là où tu es obligé de payer cher. Par contre, ici, on paye des petites chambres de 9 mètres carrés à 21 mètres carrés, entre 380 euros à 750 euros. Donc c'est un peu plus cher. Mais on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter ou sinon on va dormir dans la rue. Donc si on n'a pas de papier et qu'on sera mis à la rue, ce sera la même situation. Bon, la vie quotidienne, c'est très très dur d'avoir, il faut avoir un emploi. Si tu n'as pas de papier, c'est difficile. Soit on travaille au noir, on fait plus d'air et gagne moins d'argent. Ou il y a quelques patrons qui acceptent de nous faire travailler pour pouvoir qu'on gagne un peu. Donc c'est dans ces conditions-là, on a cherché le boulot, on ne trouve pas. Et du jour au lendemain, on peut être licencié sans être indemnisé. Parce qu'on n'est pas en situation de travailler. Donc c'est très très difficile d'être sans papier vivant dans ces pays en France. Jusqu'à présent, on a des objectifs principaux, mais rien n'est atteint. Notre but maintenant, c'est d'avoir la régularisation de tous les 44 personnes ici dans la résidence, que ce soit célibataire ou qu'ils soient des familles. Et que tout le monde soit relogé. Après, il peut refermer les coins et faire ce qu'il veut. Donc moi, j'ai vraiment l'espoir que si on continue comme ça, on peut avoir ce qu'on veut.
Comme on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être la réponse de la justice, est-ce que le bâtiment va être fermé ? Et on a dit, si c'est fermé, il fallait trouver un logement. En France, on ne peut pas loger des gens qui n'ont pas de papier. Et donc, sur les 150 personnes, il y a 49 adultes qui n'ont pas de papier. Et donc, du coup, nous, on se bat pour la régularisation de ces 100 papiers-là. Et nous avons fait une démarche au niveau de la mairie de Bondy pour faire un parrainage collectif de tous les 100 papiers. Ça veut dire que le maire s'engage à protéger les sans-papiers jusqu'à ce qu'on trouve une solution de relogement des gens qui ont des papiers et à trouver une solution pour des gens qui n'ont pas de papiers, à savoir les régulariser.
On a tracté dans le quartier depuis un an et demi. On a été voir les écoles où les enfants sont scolarisés. On a fait des pétitions en soutien. On a fait le tour des habitants du quartier pour leur faire signer une lettre de soutien. On en a déjà 300. Bon, après, on sait très bien que ce qui va faire que personne ne sera sur le carreau et qu'ils vont tous gagner des papiers, c'est la mobilisation. On se battra jusqu'au dernier, de toute façon. Même si ça nous prend 2 ans, 3 ans, on se battra jusqu'au dernier.
Juste un truc pour bien comprendre, parce qu'il faut qu'on ait en tête comment nos adversaires fonctionnent aussi. Ils ne peuvent pas se permettre qu'en France, toutes les luttes de sans-papiers disent « Attends, à Michelet, il y avait un bâtiment, toutes les familles ont été régularisées suite à une... »
Ce qui se passe à la clinique Michelet sur Bondy est un exemple parmi tant d'autres de la précarité qui est le lot des sans-papiers en France. Il s'agit de se débrouiller dans un système à l'intérieur duquel vous n'avez aucun droit à un logement, aucun accès aux services de santé et surtout pas le droit de rester où vous êtes. En fait, vous n'avez pas le droit d'exister. La situation de précarité à laquelle les sans-papiers font face est souvent renforcée par la main brutale de l'État français. L'objectif de Sarkozy, de 25 000 expulsions en 2008, s'est traduit dans les rues par des actions policières massives. Partout en France, les actions policières, ou rafles, se sont étendues sur une grande échelle pour remplir les quotas d'expulsion de chaque préfecture. Nous retrouvons un deuxième lieu de résistance dans un tunnel du métro Belleville à Paris.
Attention, il y a la police.
Ouais, mais bon,
Je m'appelle Anne Deblic et donc la police fait ça assez régulièrement dans les quartiers à forte présence étrangère, c'est-à-dire des contrôles dans le métro. Donc ils contrôlent les gens qui ne sont pas blonds comme vous.
Puis on est à la métro à Belleville maintenant, la police, ils sont sur les quais ou qu'est-ce qu'ils font ?
Ils sont sur les quais et ils se mettent en fait derrière les tourniquets ou dans les... et puis sous prétexte de vérifier qu'on est en règle avec le ticket de transport, ils vérifient l'identité des gens. Et si les gens ne sont pas en mesure de prouver qu'ils sont régulièrement sur le territoire, ils les arrêtent. Voilà.
Est-ce que ça se passe souvent ?
Ça se passait plus très souvent et c'est en train de revenir. Voilà.
Et puis vous, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Nous, on proteste. Il faut avertir absolument les gens que de cette présence-là. C'est notre rôle aussi de citoyens du quartier de dire qu'on n'est absolument pas d'accord avec cette politique et de prévenir les gens.
Des collectifs de sans-papiers et leurs alliés manifestent souvent devant la station de métro Belleville, dans un quartier où une grande partie de la population est d'origine immigrante, pour demander la régularisation de tous les sans-papiers. Récemment, l'intensité des manifestations a monté d'un cran en réponse à l'intensification des rafles, de plus en plus fréquentes et brutales. Noël, un membre de Alternative Libertaire et du groupe Unis contre une immigration jetable, décrit les rafles.
Ben, grosso modo, si tu veux, sur les quartiers populaires de l'Est parisien, dans les endroits comme Aubervilliers, par exemple, qui est plutôt proche d'ici, où il y a des ateliers clandestins, des ateliers de confection et tout, oui, il y a des rafles. C'est-à-dire que, grosso modo, on a assisté à plusieurs formes pendant des années. Pendant des années, ça a été des quartiers entiers qui étaient encerclés, on va dire. Ils avaient une commission rogatoire du juge qui ne comprenait même pas, c'était du n'importe quoi. Et parmi les délits que visait le juge, il y avait le défaut de titre de séjour. Ils ramassaient des gens comme ça dans la rue. Et puis quand ils se sont aperçus qu'on s'était organisé, qu'on commençait à s'opposer à eux et à les empêcher de contrôler ou de prévenir les sans-papiers, ils ont changé de tactique. Et ce qu'on peut assister depuis un an, c'est-à-dire qu'ils ne visent plus forcément les sans-papiers dans la rue. Ils essayent de ramasser un maximum de sans-papiers dans les ateliers clandestins parce que ça leur permet de se relayer de gloire de lutte contre le travail clandestin. C'est pour le bien des gens qu'on les arrête.
Oui, je m'appelle Aziz. Je suis militant de Réseau de Casson sans frontières 13. Je milite un peu partout, mais spécifiquement sur la question de l'immigration et la question de sans-papiers à Marseille. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, donc il a déjà pour la première fois chiffré, si on veut dire, le nombre des gens qui seront expulsés. Donc il a annoncé le chiffre de 25 000 expulsions reconduites à la frontière. Le problème, c'est qu'on ignore toujours que derrière ces chiffres, il y a des vies humaines, il y a des familles qui se déchirent, il y a des enfants qui sont déscolarisés. Donc le problème de cette politique de chiffres aussi, c'est qu'il y a aussi les policiers qui souffrent à chaque fois, enfin qui disent qu'eux aussi sont manipulés malgré eux de réaliser des chiffres. Ça veut dire qu'il y a des groupes de policiers qui sont sortis à chaque jour de commissariat ou de la préfecture pour ramener un certain chiffre de sans-papiers ramassés dans la rue, dans les transports en commun, devant les écoles,
Quelquefois, ils organisent des rafles pour ramener le maximum possible dans des quartiers ou des foyers à 6h du matin. Mais c'est une politique, on peut dire sincèrement qu'elle est raciste et qu'elle est une politique illégale et une politique déjà échouée. Ça veut dire qu'on ne peut pas jamais réussir à résoudre le problème de l'immigration par cette politique de chiffres, de courir pour réaliser des chiffres. La préfecture des Bouches-du-Rhône, bien sûr, elle est soumise à cette répression, à la course de réaliser un certain chiffre. Mais tout ce que je savais, c'est que l'année dernière, le ministre de l'Immigration, il a convoqué la préfecture des Bouches-du-Rhône à Paris parce que le préfet n'arrive pas à réaliser le quota local.
Baïja Benkouba est née en Algérie. Elle a immigré à Paris et y a vécu plusieurs années sans papier avant que son statut soit finalement régularisé. Aujourd'hui, elle est une organisatrice active dans le 9e collectif des sans-papiers.
Donc c'est un collectif qui, comme vous avez vu, il y a toutes les nationalités confondues, toutes situations confondues. Vous voyez, on fait des assemblées générales, on décide des perspectives, des initiatives à entreprendre. Et en fait, il combine un travail juridique et un travail politique. On a aussi créé un réseau d'alerte par rapport aux rafles. Dans un premier temps, quand il y a une rafle, on se déplace sur le champ, on essaie d'intervenir pour stopper la rafle. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait par quelqu'un sur le lieu d'une rafle à Château d'Eau la première fois parce qu'ils ont changé de tactique depuis cette rafle parce qu'on a permis de mobiliser beaucoup de monde. Il y a eu une mobilisation sur place des gens qui étaient même sans papier. On a fait une manif, on a occupé la rue et la police était partie. Oui, c'est difficile, mais des fois ça marche. Quand on est nombreux, on manifeste, après ils partent à un certain moment quand ça commence à... Et c'est vrai, quand on n'est pas au courant, il arrive à faire du chiffre sur place, à interpeller beaucoup de monde. Les gens, ils vivent dans le coin, c'est une guerre menée contre les sans-papiers. Et donc je pense que le gouvernement va chercher tous les moyens pour expulser. Et là, on s'oriente vers des expulsions collectives, donc c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et on essaie de s'organiser, mais c'est vrai que la machine en face, elle est plus forte, elle est plus structurée, et j'espère qu'on pourra avoir des victoires face à cette machine quand même qui nous fait peur aujourd'hui, qui se durcit de plus en plus.
Le terme rafle est aujourd'hui commun parmi les communautés migrantes et les groupes activistes en France. Pourtant, ce terme est controversé puisqu'il évoque une période terrifiante de l'histoire de France, le régime de Vichy durant la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Cordelier est un activiste parisien, un des membres fondateurs du réseau Éducation sans frontières. Il travaille avec le comité Tlemcen, un projet d'éducation historique et activiste.
Alors, il faut parler avec beaucoup de précaution. Quelqu'un m'a écrit en disant à chaque fois que vous utilisez le mot « rafle », vous bouleversez des tas de gens pour qui la rafle, c'est le 16 juillet 42. Moi, j'ai envie de faire de la peine à personne. Mais si on n'utilise pas les mots qui conviennent et dont c'est la définition, on ne peut plus parler. Il faut qu'on soit d'accord. Alors, moi, je parle souvent des mini-rafles qui ont lieu dans la rue actuellement. Ce sont des rafles. Il y a des flics qui arrivent, ils gardent un endroit, ils piquent tout ce qui est au faciès, tout ce qu'il y a, papier, pas papier. Ce sont des rafles, hein, et ils sont sommés de faire du chiffre par le préfet. Bon. Donc, ça n'a rien à voir avec la rafle du 16 juillet 42, elle est, par son ampleur, d'une autre nature. Mais le même mot convient. Et il faut faire attention de pouvoir garder un langage commun, sinon on ne peut plus se parler. Hein. Il faut prendre des dictionnaires, prendre le dictionnaire historique de la langue française, l'expression date de 1867, une méthode policière pour arrêter les gens, dans un endroit précis. C'est exactement ce qui se passe, c'est la définition qui est donnée. On ne peut pas ne pas penser à Vichy. Et il faut en parler avec beaucoup de précaution pour qu'il n'y ait pas de... On ne peut pas dire c'est pareil, évidemment. Il n'y a rien de pareil que le génocide. Ce qu'il y a de pareil, ce qu'il y a de semblable dans la politique de Vichy, et dans la politique d'aujourd'hui, c'est comment on considère l'étranger indésirable. On a toujours voulu se débarrasser des étrangers indésirables. En 1930-1940, il fallait voir comment on parlait des juifs. On les traitait pour pouvoir les... On les stigmatisait. C'est-à-dire qu'on les désignait comme étant les responsables de tous les maux, de tout le mal du pays. Le chômage, l'insécurité, tous des voleurs, etc. Bon. On les stigmatise et puis après, on prépare l'opinion publique comme ça. Et puis après, on dit qu'ils servent à rien, qu'ils nous embarrassent. Et on a préparé l'opinion publique pour pouvoir les mettre dehors plus facilement. Alors, les Juifs, ils ont d'abord été... On a ramassé les pères en mai 41 et on les a internés dans des camps d'internement. Après les camps d'internement, ils iront à Drancy et puis à Auschwitz, pour la plupart. Et il y avait un motif officiel qui était marqué. C'était en surnombre dans l'économie nationale. En surnombre dans l'économie nationale, ça veut dire on n'a pas besoin de toi, tu nous sers à rien et on veut plus de toi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, les gens on dit plus en surnombre dans l'économie nationale. On le pense tout de même. Et on dit immigration subie. Immigration subie, ce qui est tout à fait différent. Mais ce qui, dans les termes, c'est tout à fait identique dans le sens. On dit en surnombre dans l'économie nationale hier, aujourd'hui on dit immigration subie, il faut nous débarrasser de ça. Il faut pas. Il y a un vrai problème là. Il y a beaucoup de réactions dans le pays quand on commence à dire, mais à évoquer Vichy. Il y a des gens qui ne supportent pas. Et nous ne pouvons pas ne pas dire les choses. Il faut pouvoir parler, quitte à être contesté. Hein. On a le droit de contester. Mais il faut parler avec précaution.
À tous les sans-papiers, parents, rachetés, enfants en danger, régularisation, à tous les sans-papiers.
Qu'est-ce qu'on veut ?
Les papiers !
Et pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
Et les papiers !
Et pour qui ?
Pour tous !
Mais qu'est-ce qu'on veut ?
On nous entend pas à l'Élysée ! Il faut faire beaucoup de prix pour qu'ils aient tort à l'Élysée !
On va bien à l'Élysée, pour voir si vous êtes prêts. Êtes-vous prêts ?
Oui.